Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Les Orales, le podcast qui s'intéresse aux secrets d'éloquence de professionnels à Bordeaux et parfois au-delà. Chaque mois, je pars à la rencontre d'orateurs et oratrices du quotidien en quête d'anecdotes insolites, d'outils pratiques et d'une bonne dose d'inspiration pour vous faire aimer prendre la parole en public. Comment envisager l'expression que l'on soit à la barre d'un tribunal, face à ses équipes ou devant un parterre d'inconnus ? Je suis David Jadar, formateur en prise de parole et entrepreneur. J'aide chaque année plusieurs centaines de professionnels à gérer leur trac et à s'exprimer de façon percutante en présentation. Installez-vous bien confortablement dans votre fauteuil et bonne écoute. Peux-tu te présenter en quelques mots, s'il te plaît ?
Quelques mots, c'est bien la difficulté. Quelques mots.
C'est déjà une contrainte.
Bah, c'est une contrainte, c'est surtout quelques mots. C'est comme quand ta mère adolescente te disait « ne rentre pas trop tard, ne fixe pas d'horaire ». Je m'appelle Richard Perret et aujourd'hui, j'aime à dire finalement que je suis homme de spectacle vivant. Il y a quelques années, j'aurais dit comédien. Peut-être que dans quelques années, je dirais strictement metteur en scène. Mais aujourd'hui, je m'en tiens à homme de spectacle vivant parce qu'il m'arrive encore de jouer, de moins en moins, ou de plus en plus rarement. J'écris et mets en scène plusieurs spectacles depuis quelques années aussi, donc c'est ce qui occupe une grande partie maintenant de mon temps professionnel. J'enseigne l'improvisation et l'interprétation, tout simplement. En tout cas, notamment à l'École supérieure du Théâtre national de Bordeaux-Aquitaine, l'STBA, qui est l'école rattachée au TNBA. Et effectivement, le noyau commun de ces différentes activités, ou en tout cas ce qui, depuis 30 ans, est un fil continu dans mon travail, c'est le théâtre d'improvisation, ou la discipline improvisation. Et je fais exprès de dire d'ailleurs théâtre d'improvisation et pas improvisation théâtrale, parce que quand on dit improvisation théâtrale, et particulièrement quand on glisse dans le milieu amateur, mais pas seulement, hein, aussi au niveau professionnel, parmi les comédiens professionnels, improvisation théâtrale, ça devient impro. Et quand on dit impro, c'est plus court, certes, mais on oublie complètement, voire on n'a plus du tout les notions de ce qu'englobe le mot théâtral. Et j'y tiens, on fait d'abord du théâtre, c'est-à-dire qu'on est vu des pieds à la tête, on a un corps entier sur un plateau devant des gens, et non pas, on ne fait pas uniquement du langage, parce que ça pourrait se faire à la radio finalement, comme on est là. Je pourrais faire une improvisation strictement orale, sur l'oralité, sur langagière ici. Ça n'a pas du tout le même impact, donc sur un plateau de théâtre, je peux tout à fait faire une improvisation sans ouvrir la bouche, sans dire un mot. Donc c'est du théâtre d'improvisation. Et ça, c'est le trait commun. J'ai démarré en fait cette discipline assez tôt, au sortir du Conservatoire Régional de Saint-Étienne, où j'étais. On m'avait dirigé sur un stage là-dedans. Mon prof m'avait dit, tiens, va voir, ça peut être intéressant pour toi. Et effectivement, je crois que j'y ai immédiatement, mais vraiment immédiatement vu le champ des possibles. Je me suis dit, mais c'est génial, on peut inventer du théâtre en direct, comme ça, tout le temps, et tous les théâtres, on peut tout inventer, on peut aller au-delà du théâtre même, on peut chanter, on peut danser, donc on peut inventer du spectacle vivant à l'infini. De cette inventivité, création permanente et en direct, est venue, enfin, ça a, je pense, touché ou correspondu chez moi à ce besoin de créer. D'où la mise en scène ou la direction d'acteur à laquelle je m'adonne aujourd'hui. Et finalement, ça n'est que... Enfin, je trouve ça assez logique dans le parcours. Et c'est bien ce qui me fait dire que dans l'improvisation théâtrale, j'aime la jouer. Je l'ai beaucoup, beaucoup fait. J'ai beaucoup été improvisateur et le suis encore. Mais ça m'a... Très vite, j'ai été à la direction ou à l'accompagnement de création de compagnies de théâtre d'improvisation. Et donc, cette envie que j'avais de créer des spectacles, de diriger des comédiens, se retrouvent aujourd'hui à la fois dans les compagnies de théâtre d'improvisation auxquelles je prends part, où je crée ou dirige des comédiens dans une discipline ou dans des spectacles qui utilisent l'improvisation, mais aussi en théâtre à texte, où je fais ou de la mise en scène ou de la direction d'acteur. Et je crois vraiment que ça vient de l'impro et que cette discipline m'a d'abord fait reconnaître que j'adorais diriger monter des projets, en prendre la responsabilité artistique. Et puis à l'intérieur, forcément, les comédiens, mais pas seulement, les techniciens, enfin toutes les personnes qui y prennent part, essayer d'accompagner tous ces gens-là vers la réalisation d'un projet, de spectacle.
Et on peut rappeler à nos auditeurs que tu es notamment directeur artistique de la BIP, oui. C'est-à-dire la Ligue professionnelle d'improvisation à Bordeaux.
Oui, ça s'appelle BIP Bordeaux Improvisation Professionnelle. Ouais, alors, je ne sais pas si c'est la seule, je ne sais pas. Puis quelque part, je m'en fiche. C'est qu'on avait, il y a ce mot professionnel, on avait cette velléité-là de dire dans notre travail d'improvisateur, dans notre travail de compagnie de théâtre d'improvisation, on aura des exigences professionnelles, c'est-à-dire qu'on va travailler notre discipline. On ne va pas, à la différence justement du théâtre amateur qui, non pas ne travaille pas, mais le travail comme on travaille une discipline quand on en est un amateur, donc quand on a le temps sur ses loisirs, j'allais dire. Là, c'est une discipline qu'on travaille tous les jours quand on est dans une compagnie pro. Et il y avait cette exigence que j'ai tout de suite, dont j'ai tout de suite parlé à Bordeaux quand on a créé cette compagnie. Moi, je dis, je veux que le propos, la forme, donc le théâtre qu'on va inventer, ce qu'il raconte et comment il le raconte, soit exigeant. Et je veux pas que l'improvisation théâtrale se suffise à être le prétexte à faire des spectacles. Ça n'est pas suffisant, c'est juste une discipline de travail, l'impro. Mmh.
Quel regard portes-tu aujourd'hui sur l'improvisation théâtrale, sur le monde amateur en France? Parce que tu as côtoyé beaucoup de ligues, ouais, dans différentes régions en France, ouais, à Bordeaux, à Niort, je crois.
Oui, à Lyon, passe. À Paris. Ouais, ouais.
À Lyon, à Paris. Ouais. Quel regard tu portes sur l'évolution de l'improvisation en France, comparé peut-être à d'autres pays ou d'autres...
La France a cette densité associative, culturelle, qui est, je crois, unique, parce que le statut d'intermittent du spectacle le permet d'une part, parce que le parcours de la culture en France est très bien fléché entre le ministère, les directions, les DRAC, bref, tous les accompagnements, tous ceux qui permettent le spectacle public, mais aussi justement sa distinction, le spectacle privé, tout cela est très bien organisé et très bien identifié et identifiable. Et ça n'est pas étonnant donc que cette discipline qui ne demande rien à la base, ça ne demande pas d'apprendre des textes, ça ne demande pas de décors faramineux, de scénographie incroyable, de costumes, de choses, que cette discipline est essaimée parmi les amateurs, comme le théâtre à la base, mais là encore plus. D'autant qu'elle a ce côté très ludique, très inventif, justement. Et puis cet aspect aussi pédagogique ou oratoire, déclamatoire, qui a pu, je pense, séduire des amateurs au sens justement du loisir, mais aussi essaimer dans des... Je me rappelle quand j'étais à Paris, on travaillait avec il y avait une ligue d'improvisation au barreau de Paris, c'est-à-dire que les avocats, cet art oratoire par excellence, avaient naturellement créé une ligue d'improvisation qui faisait des matchs d'impro, des spectacles d'impro. Et ça ne m'étonne pas que dans les universités, et puis, mais très largement, dans le milieu scolaire aussi, cette discipline ait eu des échos forts parce qu'elle... parce que improviser, ça c'est ma définition, c'est ce que je défends le plus, c'est l'affirmation de soi par la reconnaissance inconditionnelle de l'autre. C'est réagir à l'autre, c'est admettre la proposition de l'autre et réagir à ça, s'adapter et réagir. Donc que ce soit des ados, que ce soit quel que soit les participants, le public qui va prendre part à cette discipline, qui va la jouer, elle travaille dans notre société, elle travaille surtout une société de l'écran, une société du virtuel, elle travaille dans la réalité de l'échange d'une façon comme nul autre, je crois. Donc Je ne suis pas surpris, moi, que ça se soit répandu autant. Et puis, ben, ce que je constate, en revanche, et c'est ma vigilance, moi, chaque fois que j'interviens en milieu amateur, c'est de rappeler que c'est une discipline théâtrale et pas seulement une discipline de l'art oratoire. Mmh. Oui, on peut être hyper brillant, drôle, le roi de la répartie, de la punchline, tout ça. Ça ne fait pas de nous des acteurs, ça fait de nous des très bons chroniqueurs, si on faisait un parallèle avec la téloche aujourd'hui. Mon travail, quand j'interviens au milieu amateur, c'est de rappeler qu'on est d'abord des physicalités, des organismes dans un espace. Et à partir, déjà, voilà, on te voit, on ne fait pas que t'entendre. D'ailleurs, je te vois avant de t'entendre, comme dans la vie. Mmh. Comme dans la vie, quand vous croisez quelqu'un, quand tu rentres dans une boulangerie, t'es vu avant d'être entendu.
Et parmi tous les comédiens amateurs que tu côtoies, est-ce que tu décèles une difficulté commune, des blocages qui peuvent être liés à notre culture, à nos a priori, autour de cet apprentissage de jouer avec l'autre, de la créativité, comment mettre en marche la créativité? Est-ce que t'as une difficulté qui te vient, qui est assez récurrente?
Non, pas à ce niveau-là en tout cas. La difficulté, elle n'est pas là. En milieu amateur, la difficulté, elle va plus être justement de la limite parfois d'interprétation, de la qualité de l'interprétation. C'est-à-dire qu'il y a des situations, des scènes qui sont improvisées où des fois, je le vois un petit peu, les comédiens amateurs limitent les improvisateurs qu'ils sont. Et leurs improvisations sont limitées par la qualité de l'interprétation. Donc,
est-ce que tu peux nous donner des exemples de ça?
Bah, les freins, ça va être, je ne sais pas, émotionnel, par exemple. Si tu joues une scène qui engage émotionnellement, qui t'engage au niveau de l'intime et qui va te chercher un peu loin. Donc souvent, ce sont d'ailleurs des scènes dramatiques ou en tout cas qui touchent à des sujets, à des propos forts, engageants. Il peut y avoir des pudeurs, il y a énormément de pudeurs et de difficultés des fois à passer par-dessus et c'est pas pour rien d'ailleurs que la grande majorité des spectacles d'improvisation, notamment que je vois dans le milieu amateur, sont des spectacles humoristiques. C'est plus simple de alors que la comédie n'est pas plus, et pourtant Dieu sait qu'au théâtre elle est plus compliquée que le drame, mais c'est plus simple, c'est moins engageant, c'est moins confrontant peut-être de dire des conneries, en gros, de réagir et de se faire marrer les uns les autres et de vouloir faire marrer un public, que de l'emmener sur un terrain plus sensible, plus nuancé, où l'implication émotionnelle et puis la finesse du propos vont être très confrontant, très le comédien doit, la personne doit se livrer, doit se être traversé, comme on dit souvent à un comédien professionnel. Ça, c'est un mot qu'il comprend. Un comédien professionnel, il est traversé par un texte, il n'en est qu'un média qui et donc lui doit vibrer un peu comme une harpe, comme un instrument à cordes, comme le vent qui s'engouffrerait, voilà, et il en sort cette musique là. Eh ben, certains comédiens amateurs ont encore des difficultés à se laisser traverser. Il y a des freins qui se mettent en place parce que ça peut être, encore une fois, ouais, si je te demandais là de jouer une rupture amoureuse en allant puiser dans la vérité des sentiments blessés, de la colère, de la déception, de la vexation d'une histoire d'amour qui s'arrête, peut-être que tu aurais des freins, des limites, de la pudeur, te dirait bah non, ça je peux, enfin voilà, je vais pas.
Oui, on a peut-être du mal à jouer les salauds.
Si, mais ça c'est très difficile de jouer les salauds.
On a peut-être du mal à, parce que tu évoquais le rire, mais le rire en fait là où ça soulage, c'est qu'on a le sentiment de fédérer le public assez quasiment immédiatement, alors que quand on prend des risques, c'est ce que tu décrivais, je prends des risques de peut-être confronter, de peut-être tenir des propos qui vont mimer une réalité parfois un peu triste ou un petit peu difficile. Bon bah là. Dans l'immédiat, je suis moins récompensé que par des rires. Je vais me heurter au silence du public.
Oui, après, quand le silence est un silence d'attention totale, quand on n'entend plus une mouche voler, parce qu'un comédien, des comédiens tiennent le public dans leurs mains sur, euh, sur l'intimité, sur la tension d'une situation, c'est tout aussi palpable pour les comédiens sur le plateau que des éclats de rire. Non, l'humour, qui n'est pas... Alors déjà, l'humour, c'est une énorme politesse. C'est, enfin, moi, je considère que savoir traiter de sujets justement intimes, impliquants, dérangeants, par le prisme de l'humour, savoir l'écrire avec l'humour, c'est une politesse, une incroyable de faire ça au public plutôt que de lui mettre la tête dans le caca, en gros. Mmh. Mais ça demande beaucoup de dextérité dans l'écriture.
Est-ce qu'il y a des versants d'improvisation humoristique que tu aimerais citer là, que tu apprécies, des joueurs, des joueuses pour qui tu as une admiration dans ce...
Oh, il y en a plein, ça. Mais en fait, moi, les impros que je trouve les plus merveilleux sont les impros... Alors dans l'humour, c'est les impros qui me font marrer et qui parlent des choses en faisant penser à d'autres choses. C'est-à-dire qui arrivent à ne pas pointer ou mettre trois traits de stabilo sur un propos. Je sais pas si tu veux embrasser des sujets d'actualité très forts et avec lesquels il paraît difficile encore de jouer ou de faire rire. Je sais pas, les migrants, le problème du harcèlement à l'école, tous ces sujets qui sont pourtant des sujets dont le théâtre s'empare et dont il doit s'emparer. C'est le théâtre qui permet aussi de provoquer, de poser questions, de faire réfléchir, de sensibiliser ou de faire marrer sur ces sujets-là. Voilà, quand une impro arrive à être écrite, à évoquer ces sujets-là et à le faire avec beaucoup d'élégance dans le texte, de nuances dans le propos et que c'est brillamment interprété, je trouve ça sublime. Voilà, il y a des impros d'humour pour l'humour qui tournent pas à vide, mais dont on connaît les ficelles ou les ressorts. Voilà, jouer un couple en crise avec un ado, machin. Si on arrive à être très fin dans comment on raconte ce couple et cet ado, et qu'on va aller chez toutes les familles, tous les spectateurs qui sont là, venir évoquer leur couple, leurs ados, leur machin. Si c'est fait avec beaucoup de finesse et beaucoup de nuances. Encore une fois, ouais, je crois que c'est la nuance. Et quand c'est trop générique, trop attendu, trop convenu, voire qu'on a l'impression de l'avoir entendu 100 fois, ça m'amuse moins. Mmh. Ça m'amuse moins, forcément, ouais. Mmh.
Qu'est-ce qui te nourrit aujourd'hui en tant que pédagogue? C'est-à-dire, en termes de... Est-ce que tu t'appuies sur le cinéma, sur la lecture, sur tout ça à la fois? De quoi tu te nourris pour nourrir toi-même tes comédiens à la BIP ou ailleurs?
Alors déjà, en pédagogie, moi, mon moteur premier, c'est les gens que j'ai en face de moi. C'est-à-dire, tant que je n'ai personne en face de moi, je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à leur dire. J'ai une expérience, j'ai des choses qui se sont inscrites en moi et que je sais être de bons moteurs ou de bons leviers pour justement passer des freins, des choses comme ça. Mais ils ne sont d'aucun recours, d'aucune utilité tant que je n'ai pas une personne en face. Et c'est à cette personne que je vais essayer de... Cette personne que je vais accompagner comme ça, alors qu'une autre, je vais l'accompagner différemment. Donc, ce qui me nourrit d'abord, c'est qui j'ai en face de moi. Mmh. Avec son bagage de théâtre, d'improvisation quand c'est de l'impro, avec son bagage de vie, petit à petit, oui. Bien sûr que la vie de la personne ou, je ne sais pas, son métier, c'est sa vie presque aussi intime. Quand on se connaît mieux, tout ça va peut-être nourrir aussi son jeu. Et donc, forcément, dans mes retours, on va aller toucher des petites choses comme ça. Mais d'abord, c'est vraiment la personne que j'ai en face de moi qui décide du pédagogue que je suis, finalement. Mmh. L'impro demande tellement de confiance de la part des personnes qui les jouent, particulièrement dans les publics d'adolescents, jeunes adultes. Chez les gamins, non, chez les tout-petits, jusqu'à 12-13 ans, il y a tout un tas de pudeurs qui ne sont encore pas là, donc c'est génial, ils vont partout avec une espèce de liberté incroyable. Mais à partir du moment où les pudeurs s'installent, il y a des fois, effectivement, encore une fois, des freins dans le propos, dans le jeu, dans l'audace que ça demande. Et donc, ça demande de la confiance, ça demande beaucoup de confiance. Donc, dans tous les cas, s'il y a une règle, je suis un pédagogue très cool. Même, justement, au TNBA, je me mets pas sur une posture professorante ou je ne sais quoi. Je me mets...
Mais ce qui m'intrigue, c'est qu'en plus, tu as eu l'humilité de ne pas mentionner, on va le rappeler, tu as été capitaine de l'équipe de France d'improvisation, ça compte quand même un petit peu. Tu as un background en tant que joueur assez, assez éloquent. Ma question portait plutôt sur comment tu fais en sorte de ne pas, après toutes ces années-là, de te renouveler, de réaiguiser ton œil et de garder cet œil frais et nouveau sur l'improvisation. Et tu le mentionnais tout à l'heure, où la tentation peut être grande très vite de tomber dans les habitudes, dans les clichés, dans la paresse, la paresse intellectuelle, et ça nous guette tous improvisateurs. Comment tu te prémunis de ça?
Mais en travaillant ailleurs, en fait, la plupart du temps. C'est-à-dire qu'en ne faisant pas que ça, j'ai souvent dit aux comédiens professionnels, là pour le coup, des compagnies avec lesquelles j'ai travaillé, va voir ailleurs. Il y a des comédiens, je sais qu'il y a certains jeunes comédiens, quand je me rends compte qu'au bout de 3-4 ans, ils n'ont eu que moi en regard extérieur, que j'ai été la seule personne qui les ait. Je leur dis, il faut que tu te barres un an ou deux, il faut que tu ailles bosser avec quelqu'un d'autre. Moi, je l'entretiens en mettant en scène des comédiens dans d'autres spectacles, je l'entretiens en jouant. Alors oui, tu le dis, j'ai beaucoup joué, donc ça aussi c'est un terreau. Évidemment, j'ai une appréhension du spectacle, une connaissance du spectacle, de sa rythmique, de son exigence, je ne sais pas, physique, intellectuelle, qui est assez maintenant... je sais ce que ça demande de jouer un match d'improvisation en termes d'amplitude de jeu, j'allais dire, de panel, de registre, comme on dit. Je dis souvent que le match d'impro, c'est un match de variété, comme un concert de variété. Et le danger, ce serait que ça devienne de la variétoche. Donc il faut être capable de garder... un spectacle absolument tout public qui peut raconter une histoire avec le langage et les codes du théâtre de Molière, puis partir dans un burlesque, puis effectivement faire un clin d'œil au cinéma de David Fincher, etc. Et alors ouais, ça demande de lire, bien sûr, ça demande de lire du théâtre notamment, ça demande de regarder des films, des séries, mais ce qu'on fait tous, ça demande juste ça demande de les travailler en fait en amont. On fait pas une improvisation à la manière de David Fincher. Moi, quand j'arbitre ce match-là, quand je vais proposer en amont du match aux deux capitaines, enfin aux deux coachs, pardon, des deux équipes, il y aura une improvisation à la manière de David Fincher. Si les coachs, après avoir consulté leurs comédiens, reviennent et me disent « Ben non, on ne voit pas trop ce que c'est », je l'enlève immédiatement. L'objectif, c'est de... Je me rappelle, tiens, un exemple tout con. Un jour à Paris, je vais voir la LIF. La LIF, c'était la Ligue d'improvisation française, c'est-à-dire que c'est la première... équipe de comédiens qui a joué de l'improvisation en spectacle au Bataclan, notamment en France dans les années 80, immédiatement après que la LNI, la fameuse LNI du Québec, soit venue en Avignon présenter le match d'impro. Donc ça n'existait pas en France, en tout cas personne ne savait ce que c'était. Et moi j'étais très jeune à l'époque et je me rends à un spectacle qui n'était pas un match, qui était plutôt un spectacle façon cabaret, de la LIF donc à Paris. Et ils annoncent une improvisation à la manière de l'opéra. Et je suis dans mon fauteuil, mais ouais, je jubile d'avance, j'adore l'opéra, enfin, je trouve que le chant lyrique, s'il me balance un truc comme ça en impro, ça va être incroyable. Et puis en fait, ben non, donc je vais aller voir à la fin d'ailleurs, et assez péremptoire, je leur dis, mais il ne faut pas dire à la manière de l'opéra, dites à la manière du parodie de l'opéra par des gens qui ne savent pas chanter, parce que... Moi, je suis vraiment au premier degré dans ces catégories, et c'est mon dada aussi. Si on dit aux gens qu'on fait une impro à la manière de Shakespeare, c'est pas à la manière du café-théâtre tel que le café-théâtre pourrait s'emparer des codes de Shakespeare, et j'ai rien contre. Hein.
C'est un peu comme quand on pique l'imitation de son meilleur pote, et oui, pour se l'approprier, tiens, j'ai imité un tel parce que j'ai vu mon bon pote le faire.
Ouais. Et puis,
c'est un raccourci.
Et puis comme je dis, y a un match d'improvisation, c'est théoriquement, si on suit la règle officielle, c'est 2/3 d'improvisation libre, c'est-à-dire au cours desquels les comédiens et leurs équipes sont libres de jouer n'importe quel registre de jeu, et 1/3 d'improvisation où l'arbitre, le meneur de jeu, propose un registre, un style, une manière de... respectons ça, puisque si vous voulez faire les pitres, les clowns, de tout ce que vous voulez, vous avez 2/3 du temps pour le faire. Donc quand on dit qu'on va faire une improvisation à la manière du cinéma de David Fincher, quand c'est annoncé, le public se dit « Oh là là, mais oui, David Fincher, Seven, The Game » et tous ces films-là, donc toutes ces références lui viennent en tête. Et s'il a sous le nez finalement une... Alors déjà qu'il y a un décalage entre cinéma et théâtre, on va pas pouvoir jouer avec ce que propose le cinéma, les cadrages, tout ce qu'on va pouvoir faire, c'est essayer d'infuser l'esprit de ce cinéma-là, la lumière, la tension, la noirceur de son cinéma. C'est pour restituer ça, c'est pour évoquer ça au public et qu'il voit les correspondances que le théâtre et l'improvisation là est en train de faire avec ce cinéma. Sinon, faut mettre à la manière, encore une fois, d'une parodie de Fincher. Donc, laissez-vous aller, prenez Seven et faites-en 3 tonnes 2 dessus.
Mais je trouve que pour avoir vu jouer la Bible plusieurs fois, ces trois dernières fois, à Aisin, on en parlait en off tout à l'heure. J'avais vu à la manière de Racine. Aujourd'hui, je pense pas être trop aventureux à dire qu'il n'y a pas énormément de gens qui lisent du Racine et ça a été incroyable. C'est la première fois où j'ai vu des gens en standing ovation à la fin d'une impro. Première fois de ma vie, ça fait peut-être 8 ans que je vais voir des spectacles d'impro, j'avais jamais eu ça. Et j'ai l'impression que vous avez un peu cette patte-là d'aller chercher des catégories. Je pense à la manière de Tennessee Williams, c'est pareil. Sauf si ça nous est imposé au collège ou au lycée, et pour les plus littéraires d'entre nous plus tard. Mais ça reste assez des auteurs assez peu lus pour le grand public.
Oui,
finalement.
Après Racine, tout le monde en a une idée. Je pense que sans l'avoir lu, en ayant même lu ou refusé de le lire à l'école, parce qu'on pouvait pas.
Toi aussi.
Tout le monde. Non, alors moi non, c'est mes bouquins de chevet. Moi, justement.
C'est vrai.
Ouais, non, c'est Racine même... est mon. J'y reviendrai toute ma vie et toute ma vie. Il y aura ou Phèdre ou Andromaque sur mon lit, enfin sur ma table de nuit, sur mon lit. Non, dans mon lit.
Tu dors pas avec. Ouais, mais qu'est-ce qui se
passe? Tout le monde sait que c'est de l'alexandrin, en tout cas que ça rime, et tout le monde sait à peu près que c'est une tragédie, et une tragédie amoureuse a priori. Donc à partir de là, quand le spectateur est témoin de comédiens et qu'ils entendent des alexandrins, parce qu'ils entendent, non seulement ils entendent les rimes, mais en l'occurrence cette improvisation-là, jouée par Benjamin Viguier pour la BIP et Félix Philippard pour l'équipe de France, c'était avec l'équipe de France, il y avait l'alexandrin, c'est-à-dire qu'on entendait les 12 pieds, ce chant si particulier qui fait qu'on l'identifie, même une oreille profane de néophyte entend un alexandrin, et puis il y avait cette force, cet engagement que ça demande dans le jeu pour que justement cette langue soit nourrie, soit charnelle et non pas juste une dextérité langagière. Donc à la dextérité langagière s'ajoute une interprétation entière, très engagée, et puis il y avait dans le propos, je crois qu'on était sur un prince et un roi, ou en tout cas deux espèces de frères ennemis qui finalement étaient amoureux l'un de l'autre, ou en tout cas avaient une passion, étaient indécrottables et indécrochables l'un de l'autre et finissaient par se l'avouer. Donc ça embrassait des grands sentiments tragiques, puisqu'il y en a un qui meurt, je crois, à la fin, comme souvent chez Racine. Donc tous les codes raciniens étaient remis sur le plateau au premier degré, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'esbrouf, les comédiens ne s'économisaient pas, et je crois que le public l'identifie absolument et se dit, merde, ils sont en train vraiment de faire des alexandrins. Donc la difficulté technique, simplement technique, langagière de Racine, additionnée à l'interprétation, à la qualité, à l'engagement que ça demande, plus la force du propos, les trois sont là. Ça nous saute à la gueule et ça nous saisit et une salle se lève à la fin. Ouais,
je me souviens des corps très ancrés aussi, ouais. Propres au jeu de Racine. Et puis cette musique, on peut faire de l'alexandrin, mais ça peut tomber à plat.
Ouais.
Il y a aucune prosodie, il y a aucune musicalité. Ouais. Et là, il y avait cette musique.
Oui, mais on a affaire à... Moi, j'ai beaucoup joué avec notamment Félix Philippard, étant moi aussi un grand adepte de l'alexandrin improvisé, Et après, on le travaille. Moi, je sais que je travaille encore beaucoup, beaucoup mes alexandrins improvisés. C'est-à-dire que faire des alexandrins, mettre la musique, comme tu dis, c'est une chose. Mettre un sens à la musique, c'est-à-dire faire en sorte que nos alexandrins veuillent dire quelque chose et que ça avance, et que c'est encore autre chose, c'est encore une seconde difficulté. Donc, trouver la musicalité et le sens et le signifiant dans le propos, si tu le bosses, non seulement les gens vont dire putain, mais c'est de l'alexandrin, et en plus, waouh, c'est beau, enfin, ça raconte un truc, c'est fort, et ils le travaillent, et on le travaille. Et tu disais à la BIP, Il y a cette exigence, mais qui est là depuis le début. Ça fait 11 ans, 12 ans maintenant que la BIP existe. Et moi, j'en suis au départ qu'à la parenthèse. Je ne suis absolument pas à l'origine de sa création. Ce sont des comédiens et comédiennes bordelais qui faisaient partie déjà des différentes troupes d'improvisation qu'il y avait à Bordeaux et qui sont encore là pour la plupart. Ils avaient juste envie de se fédérer justement autour d'exigences professionnelles plus fortes. M'étant installé peu de temps avant sur Bordeaux, ils m'ont appelé. Et puis, moi, je leur ai dit, le seul intérêt, enfin, en tout cas, la seule envie qui pourrait me pousser à travailler avec vous, c'est que, justement, cette exigence-là, c'est-à-dire, si c'est pour... C'est un peu ça, le souci de l'impro. Son souci, son petit... Sa faiblesse, c'est qu'encore une fois, elle pourrait suffire à elle-même. Créer des spectacles qui... tu vois, en off, tout à l'heure, tu disais un mot, je t'ai pas repris parce qu'on était en off, mais tu me le dirais là, maintenant, je te reprendrai tout de suite. Tu as dit concept. Je déteste ce mot-là parce que, justement, si un spectacle d'impro est un concept, il est un prétexte. Il est un prétexte à faire des sketchs improvisés. Et moi, ça, c'est pas que ça m'intéresse pas, parce que j'en ai fait des formes de cabaret où, finalement, on allait prendre un mot ou deux dans le public... Ou alors on est déguisé en marin-pêcheur et on pêche des mots dans le public, ou on est déguisé en garçon de café et on prend le menu des mots dans le public. Voilà, tout ça n'est qu'un prétexte in fine à faire des sketchs improvisés, et c'est très bien. Qui plus est, si on a une exigence, encore une fois, dans ces sketchs, dans le propos, dans l'écriture, dans la narration, dans l'interprétation, on a des très bons sketchs improvisés. Je préfère aujourd'hui, et c'est ce qu'on a fait avec la BIP, que l'improvisation devienne un outil de théâtre, comme il l'est dans tout un tas de créations de théâtre dit à texte. Les comédiens travaillent au plateau, des fois improvisent des choses, et puis avec le metteur en scène, ben on garde pas, tiens oui, ça on va développer, non ça on vire, c'est nul, ça sert à rien, enfin bref. Donc les spectacles, je me rappelle très bien, il y a quelques années, de gens qui me disaient, oh là là, j'ai vu un spectacle, une affiche d'un spectacle de la BIP, c'était écrit et mis en scène par Richard Perret. Je disais, ouais. Il me dit, mais c'est pas de l'impro. Je disais, si, sur le plateau, ils improvisent. Mais ils improvisent dans le cadre d'un spectacle dont j'ai pensé, écrit les intentions. C'est-à-dire que c'est un spectacle qui va parler de ça, qui va, voilà le sujet, le propos du spectacle, voici sa forme. C'est-à-dire que c'est un spectacle. Combien de spectacles d'improvisation aujourd'hui tu vas voir, dis-moi, David, où tu peux déceler une création lumière, où tu peux voir qu'il y a eu une création de costume. C'est-à-dire où on ne s'est pas contenté de foutre un comédien, une comédienne sur un plateau en lui disant « ouvre la bouche et improvise ». Pour moi, un spectacle, s'il n'y a pas tout ce qui fait ses codes, tout ce qui fait la magie, comme on dit, du spectacle, à savoir les lumières, le son, la bande-son, les costumes éventuellement qui vont avec, c'est se priver, ou en tout cas, c'est qui plus avec l'impro, c'est s'en tenir au seul prétexte de « j'improvise, donc ça suffit ». Non, t'improvises, c'est super, on a un outil, un langage pour faire du spectacle. Maintenant, il reste à écrire, penser ce spectacle-là.
Et d'ailleurs, à ce propos, je me souviens que tu étais arbitre de plusieurs matchs récemment, et c'est la première fois que je vois ça, tu chorégraphiais presque ton rôle d'arbitre, on avait presque des fois des petits pas de moonwalk.
Ouais, chorégraphie, t'es gentil. Hein.
Ma question, tu la vois venir, c'est est-ce qu'il faut y voir une intention un petit peu de bousculer le décorum traditionnel du match d'impro, ou c'est purement...
C'est même l'inverse, c'est pas l'intention de le bousculer, c'est l'intention de rappeler que l'arbitre est un des personnages de ce spectacle. Alors c'est un personnage qui a une fonction. Il a une fonction avec le maître de cérémonie et les deux coachs d'équipe quand il y en a, c'est de maintenir la dynamique du spectacle. C'est-à-dire, dans la création du match d'impro, c'est un spectacle nord-américain basé sur la rythmique, la dynamique du hockey sur glace. Donc, il faut avoir vu des matchs de hockey. Moi, le nombre de gens qui font de l'impro en France, et je leur dis, mais t'as déjà vu un match de hockey? Est-ce que t'as déjà entendu l'ambiance qu'il y a dans un match de hockey? Eh bien, c'est cette ambiance-là, c'est ce rythme-là qu'il faut réussir à reproduire. Et tout ça, en théâtre et non pas, évidemment, en... Et puis, le match d'après a une dramaturgie sportive. Ça n'est qu'une dramaturgie, cette histoire d'équipe, de qui va gagner.
C'est un prétexte.
Oui, ouais. Oui, c'est une, au-delà du prétexte, c'est vraiment une... Il faut le prendre en compte parce que le public adore voter. Le public oui. adore ce moment-là, cette participation, cette interaction-là. Donc c'est plus qu'un prétexte, c'est vraiment sa dramaturgie. On écrit, on leur fait croire que c'est un match, que c'est un sport, qu'à la fin, il y a un gagnant, un perdant. Quand on joue une Coupe du Monde d'improvisation, et Dieu sait que... Moi, quand on me dit que t'es 3 fois champion du monde d'impro... Je ne réponds plus parce que j'ai pas envie de dire oui. Alors que c'est vrai, sur le papier, c'est vrai. Je dis si, des fois je dis oui, je suis champion du monde de championnat du monde d'improvisation francophone qui réunit 6 pays. Cite-moi un championnat du monde où il n'y a que 6 pays en compétition, il n'y en a aucun. Donc tout ça, c'est du marketing, entre guillemets, les championnats du monde de... Après, donc l'arbitre, pour en revenir à lui, c'est un des personnages comme le MC qui a une fonction particulière, d'une part, et la sienne, donc, c'est de maintenir avec le reste du staff la dynamique du spectacle et, là, celle qui lui est propre à lui, l'arbitre, c'est d'accompagner les comédiens dans l'exigence artistique, justement, du jeu. C'est de leur dire, attention, là, c'est en train de redescendre, ça pêche, je sais pas, c'est confus, c'est pas, vos intentions de jeu sont pas claires, les personnages sont, là, c'est un cliché, enfin, on l'a déjà vu, c'est maintenir l'inventivité, la créativité et l'exigence de cette créativité au beau fixe. Donc, ça, c'est sa fonction. Mais tout ça, c'est porté par un personnage qui, comme le maître de cérémonie, a quelques inserts, de nombreux inserts, mais très courts. Un arbitre, un maître de cérémonie, ils interviennent dans le spectacle, ça doit être très court, il faut laisser un maximum de temps à l'impro pure. Et donc, dans ces temps-là, c'est un personnage qui intervient. Et alors, moi, ça m'est venu comme ça, naturellement, de mettre un peu, oui, à sautiller sur place, à taper du pied pour mettre une certaine... Je sais pas, cette dynamique m'est venue...
C'est ton amour pour la funk
oui, ou le disco. Oui, il y a ça, ouais, mais pour la danse, j'avais fait de la danse, mais en tout cas, il y a ce truc-là, ouais. Mais justement, quand je vois... finalement... Plus que parce que l'arbitre, il peut être complètement, j'allais dire, le personnage peut être assez transparent, j'en ai vu ô combien, mais la fonction d'arbitre, à savoir signifier au comédien, encore une fois, que là c'est un peu en dessous, parce qu'il intervient pour ça, hein, quand tout va bien, il n'intervient pas l'arbitre. Donc quand il intervient, c'est pour aider les comédiens, et non pas les sanctionner, c'est pour, avec complicité, parce que c'est des copains, leur dire « attention, là, ça ». J'ai vu des arbitres qui ne font que ça, et c'est très bien. Le maître des cérémonies, en revanche, c'est pas possible qu'il ne fasse que une fonction de... Il a des inserts à faire qui doivent être absolument pertinents, rapides, hyper bien écrits, avec humour si possible, des maîtres de cérémonie qui sont d'une platitude et qui, au lieu de dynamiser le spectacle, le ralentissent, ou le rendre morne, ça par contre est une faute. C'est une faute, mais dans ce spectacle-là.
Et est-ce que ce n'est pas souvent un rôle négligé dans le décorum ?
Bien trop souvent.
On est d'accord.
Bien trop souvent. Il y a même carrément des fois des... Quand, je ne sais pas, et je l'ai déjà vu, donc j'imagine que certains l'identifieront, cette chose-là, dans une troupe d'improvisation, notamment amateur, quand on fait la distribution de qui va jouer le match du week-end prochain et qu'on dit à une telle ou un tel, bah, toi tu feras MC, la personne des fois est déçue, alors qu'elle a un taf monstrueux à faire.
C'est peut-être le plus gros taf, d'ailleurs.
Il y a un travail de préparation.
En termes de préparation, c'est
ouais,
le plus gros.
Ouais, complètement, ouais.
Très réussir son entrée, sa ouais. fin, les transitions.
Oui, et puis trouver, encore une fois, son écriture. Et il y a un des maîtres de cérémonie pardon, à Paris, Emmanuel Gann, qui officie à la Cigale pour la Ligue majeure, qui a créé presque une identité de maître de cérémonie. Il ne dit pas une phrase qui n'est pas une punchline, une connerie qui fait plier la salle. Mais tout ça, dans le timing... qui lui est dévolu, c'est-à-dire qu'il n'empiète pas sur le temps de jeu, c'est juste que ses temps à lui, il les a tous écrits, et puis pour certains, il les improvise évidemment, mais dans une patte, dans un style, d'ailleurs ce type est auteur, c'est pas pour rien que pour les maîtres de cérémonie, je dis mais il faut des très bons auteurs, il faut quelqu'un qui soit capable en 4, 5, 8, 10, 12 secondes, le temps qu'il va avoir de prise de parole entre deux impros, entre un vote et l'annonce des résultats du vote, c'est ce temps-là dans lequel il doit être percutant. Voilà, c'est un rôle percussif, maître de cérémonie. C'est un rôle à percussion. Tout comme, je dis souvent ça, un comédien de théâtre, c'est un rôle à réaction. Eh bien là, c'est un improvisateur, c'est un rôle à super réaction.
Et je trouve que le maître de cérémonie, c'est aussi un rôle à renoncement. C'est renoncer à arracher un bout de lumière dédié aux joueurs. C'est-à-dire que je dois faire des incursions, mais je ne dois pas voler la vedette.
Ah non, surtout pas.
Des joueurs.
Bien sûr, mais c'est l'humilité du spectacle qui le commande, comme dans tous les spectacles. Combien de comédiens jouent dans des pièces et n'ont qu'un petit rôle ou qu'un faible, ou dans des films avec un faible temps de passage écran, machin. Et en revanche, on retire leur rôle, le film, l'histoire n'existe plus. Donc leur rôle est essentiel, mais il se réduit à ça. Si tu n'admets pas ça comme un postulat, je fais MC, donc mes temps de parole, c'est 15, 20, 30 secondes, à part au début où je peux faire 1 minute 30 d'accueil, et puis à la fin où je reprends la parole pour 1 minute 30 pour remercier le public et puis les raccompagner. Mais c'est tout, si tu veux. Sinon, tu fais du one-man show, si tu veux.
Et il me vient une question, comment tu viendrais à préparer si on te dit, ben, Richard, peux-tu MC'ser, donc être le maître de cérémonie d'un prochain spectacle? J'imagine que tu l'as fait des tas de fois. Comment tu prépares ça en autonomie chez toi? Tu parles à tes plantes vertes, tu t'enregistres, tu te filmes,
Non, j'écris.
T'écris?
Ouais, je vais écrire deux, trois choses. Bah déjà, je vais me renseigner, évidemment, quel est le contexte du match, quelles sont les équipes en présence. Si on me dit qu'il y a un comédien, une comédienne dont c'est le premier spectacle, c'est la première fois qu'il va jouer, je vais évidemment le noter et le mentionner. Si au contraire, on me dit cette comédienne-là va jouer son 300e match, je vais le mentionner. Donc, je vais relever dans le contexte ce qui fait saillie, ce qui est remarquable et qui participe justement du côté spectaculaire. Et puis ensuite, en amont et de façon incontournable, j'appelle ou je vois l'arbitre du spectacle et je vais lui dire montre-moi tous tes thèmes. Je les vois tous avant, moi, quand je suis MC. Et de façon à avoir presque un petit mot, une réaction, même si je la note pas, mais je sais que je l'ai en tête, je sais que je vais dire ça. J'adore dire des conneries parfois, évidemment, quand je suis MC et qu'on me fait une impro à la manière de Shakespeare. Je me rappelle déjà combien de fois avoir dit que c'était un peintre bulgare, ou de corriger et puis de faire une correction qui était tout aussi fausse parce que les gens voient à peu près qui c'est Shakespeare. Mais sur Fincher, par exemple, là j'étais arbitre, mais si j'avais été MC, j'aurais rappelé évidemment quels sont les grands films de David Fincher et quelles sont surtout ses récurrences, ses thématiques, ce travail. Par exemple, rappeler. Et parce qu'il y a aussi des techniciens lumière sur un match d'improvisation qui improvisent de la lumière, et comme ils ont des couleurs à leur disposition, rappeler que les films de David Fincher sont tous noyés dans une lumière verdâtre et qu'ils travaillent sur des camaïeux de vert, de gris, et ces verts urbains un peu sombres, pour que le technicien lumière s'empare de ça aussi. Et donc je vais bosser en amont, finalement plus qu'un comédien qui, une fois qu'il a, comme tu disais, lui il a travaillé son art, il s'est improvisé avec, il s'est travaillé en collectif, il peut arriver sur le match avec ses acquis-là et puis c'est tout.
On en vient au rôle éducatif aussi de l'improvisation, ça reste du théâtre, donc il y a aussi, il faut, comme dirait le vieil adage antique, il faut plaire mais il faut aussi instruire. C'est-à-dire qu'on vient, on vient peut-être récupérer des choses, des références culturelles à travers un match. Tu crois à ça? Moi, j'ai l'impression qu'en venant voir la BIP, c'est un petit peu ce qui se passe. Si j'y connais rien à...
C'est des clins d'œil, c'est des références culturelles et ça reste que ça, c'est du clin d'œil.
C'est des petites capsules.
Ouais, c'est-à-dire que justement, si je continue sur l'exemple de David Fincher, il ne faut surtout pas prétendre que le public qui n'aurait jamais vu un film de David Fincher va savoir ce que c'est en ayant vu une improvisation à la manière de David Fincher. Non, c'est au contraire parce qu'il en a déjà vu qu'on va pouvoir se permettre d'y faire référence et de faire un clin d'œil, et que cette référence, ce clin d'œil, soit au plus près de ce que notre imaginaire collectif, de notre culture, finalement notre pop culture, a retenu de David Fincher ou de Racine.
Mais est-ce que tu crois que ça peut donner envie d'aller à la FNAC ou à Mola acheter un bouquin de Tennessee Williams ou de Racine?
Peut-être.
Ou d'aller regarder un des Fincher?
Ouais, peut-être.
Moi, j'ai
peut-être
le sentiment.
Peut-être, mais comme quand tu vas au théâtre et que tu vois une pièce, je sais pas, tu vas revoir, je sais pas, Georges Dandin de Molière, une pièce que peut-être t'as jamais lue de Molière parce qu'on lit l'Avare, on lit Le Bourgeois Gentilhomme, on lit peut-être Tartuffe, Le Misanthrope. Mais Dandin, c'est peut-être plus rare, j'en sais rien, je dis des bêtises, peut-être que ça se lit beaucoup à l'école aussi. Mais en tout cas, voilà, tu vas voir Georges Dandin de Molière, et tu rentres chez toi en disant, putain, je la connaissais pas cette pièce, ça me donne presque envie de la relire, ou de relire un bout de Molière, mais oui. Et puis d'autres, chez d'autres spectateurs, pas du tout. Ils sont venus prendre, et puis ça... Mais bien sûr, de la même façon que que y a les registres, mais il y a même tout simplement le propos. De la même façon qu'une improvisation, je ne sais pas, qui va traiter d'un sujet qui est en direct lien avec notre société, en direct lien avec notre actualité, va peut-être donner aux gens l'envie, non pas d'en savoir plus, mais en tout cas, ça va faire écho chez eux à, tiens, et oui, ce sujet-là, tiens, actuellement, ben voilà, on a tous nos agriculteurs et européens de plus en plus dans les rues. Une improvisation qui s'emparait du sujet, c'est toujours délicat de s'emparer d'un sujet dont l'actualité est quotidienne et brûlante, là. Parce qu'il faut le faire avec une énorme connaissance du sujet. Là, pour le coup, ça, je suis intransigeant là-dessus. Je dis, ne venez pas réduire, déformer, mal informer, mésinformer même, au prétexte de faire de l'humour sur un sujet brûlant, entre guillemets. Ça, vous n'avez pas le droit. Pour moi, on n'a pas le droit.
Plus de tact.
Ouais, il faut même...
Plus c'est chaud, plus il faut du tact.
Il faut beaucoup d'humilité et beaucoup de connaissances du sujet. Beaucoup de connaissances. J'ai un exemple même très précis à Paris d'une comédienne qui avait voulu jouer la maman d'un ado parti faire le djihad. Donc, autant dire un sujet on ne peut plus touchy. Et c'était... Allez, je vais être méchant, mais c'était ridicule. Ridicule ce qu'elle en avait fait. J'étais allé la voir à la fin en lui disant mais... Elle me dit, mais je me suis retrouvé, en fait, elle m'avait dit, elle était tout à fait déçue de ce qu'elle avait fait. Elle dit, je me suis retrouvé paralysé par l'ampleur du truc. Je dis, oui, je crois que tu ne peux pas t'emparer d'un sujet pareil si tu n'es pas porté par une forte connaissance d'eux. Donc, si tu n'as pas dans ton entourage ou toi-même. Et puis, des choses. Le théâtre n'est pas là pour donner des leçons. Enfin, moi, je déteste le théâtre qui donne des leçons et encore plus. L'improvisation, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas été pensé, travaillé comme un texte de théâtre qu'on a pris le temps d'écrire, donc de penser, on ne peut pas se permettre, mais enfin, c'est même... C'est
oui, puis que ça ne devienne pas une tribune à chroniqueurs comme on en connaît à la radio, à la télé actuellement.
Non, et encore qu'il pourrait y avoir une impro à la manière d'une chronique. On fait bien des impros à la manière du stand-up, qui est un humour qui souvent s'empare frontalement d'un sujet. Ça, c'est pas le souci. Ce serait de le faire sans avoir aucune connaissance du sujet en question. D'accord. Et de le déprécier, voire de mésinformer, enfin de dire des conneries dessus, mais qui sont à la limite du ouais, c'est dangereux ou non, t'as pas le droit. Enfin, tu peux pas dire ça, c'est dégueulasse parce que c'est faux. Et tu ne le savais pas, bah tu fermes ta gueule sur le sujet.
Ben, on en vient à une question. Moi, il y a une question qui me taraude, c'est un petit peu le travail autonome que pourrait faire un comédien ou comédienne improvisateur. C'est à côté des ateliers, à côté de... Est-ce que tu préconises peut-être un travail face caméra ? Comment t'encouragerais les comédiens à travailler en autonomie, à cultiver leur art ?
Alors d'abord, en lisant du théâtre, en voyant du théâtre, c'est une chose, et du théâtre, pas du théâtre d'improvisation, du théâtre. C'est-à-dire qu'il faut voir, différents registres, différents auteurs, différentes formes de théâtre pour justement... L'impro, c'est un champ des possibles immense. Tout est ouvert. Et en fonction des spectacles, on va se mettre des contraintes éventuellement que moi j'appelle des rails. C'est-à-dire qu'on va faire entonnoir de ce champ des possibles immensément ouvert, on va aller en entonnoir vers quelque chose. Si je te dis improvise-moi quelque chose là tout de suite maintenant, ben, le champ des possibles est monumental. Si je dis improvise-moi quelque chose, déjà ça ne fera que ton improvisation durera 6 minutes. Déjà ça donne une idée, le temps te donne une idée du type d'écriture dans lequel tu peux rentrer en 6 minutes, parce qu'on n'écrit pas une histoire de la même façon en 6 minutes qu'en 2 minutes ou en 30 minutes. Donc si je te dis ça fait 6 minutes, je suis en train de te réduire le champ des possibles. Si je te dis, cette improvisation, j'aimerais qu'elle se passe dans une piscine publique. Je te donne un contexte ou un lieu, comme ça, bim, je réduis encore. Cette improvisation, j'aimerais qu'elle parle du rapport père-fils. Bim. Et de ces trois éléments-là, je viens de réduire et finalement dessiner un rail. Donc la contrainte devient... et ça, par contre, c'est un truc moi que j'applique dans la vie. Il y a très longtemps que je prends bien, entre guillemets, les contraintes, que j'y vois une... presque un cahier des charges,
un rail, guide,
ouais,
un tuteur,
ouais.
Très bien, il est bientôt temps de clôturer cet échange passionnant. Il y a une actualité, je crois, fin mars, dont tu as peut-être envie de nous parler avec la BIP.
Ouais, alors il y en a deux.
Il y en a deux, pardon.
Ouais, il y en a une avant, alors qui est hors BIP. C'est dès la semaine prochaine, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, si je ne dis pas de bêtises. C'est Mine de rien au TNBA. C'est une pièce à deux personnages. Une mère et son fils, un rapport mère-fils, une pièce de vraiment de l'intime, sur la brutalité, la maladresse, la poésie aussi, de ce qu'on s'adresse entre une mère et son fils, de ce qu'on se dit, de ce qu'on se tait aussi, de ses secrets, de ses non-dits qu'il peut y avoir comme ça. Et comme j'ai eu le bonheur de faire la direction d'acteur sur ce spectacle, et que je l'aime beaucoup, il y a donc ce tout premier.
Est-ce que vous allez le rejouer au-delà de la semaine prochaine?
Alors, sûrement, il y a des dates en cours, mais comme je ne suis pas dans la production.
D'accord.
Je peux pas
spectacle Mine de rien.
Ouais, Mine de rien, au TNBA à partir, il faut vérifier vraiment, mais je crois que c'est mercredi ou jeudi prochain jusqu'à samedi, donc de la semaine prochaine.
Donc début février.
Ouais, c'est
d'accord.
Ça. Et puis effectivement, pour la BIP. Le prochain le spectacle grand format, donc ce sera un match d'impro, et c'est le 23 mars à Isigny, à la salle du Vigan, et on reçoit, pour la seconde année consécutive, après une pause suite Covid et compagnie, qui avait duré 4 ans quand même, on reçoit à nouveau la Ligue nationale d'improvisation du Québec, donc un peu comme on dit souvent, on reçoit la maison mère, ces gens qui font de l'impro, c'est enseigné à l'école, chez eux, donc il y a vraiment, une discipline culturelle aussi finalement, enfin, Molière chez nous, c'est l'impro chez eux presque.
Un grand merci Richard pour ce moment passé ensemble, pour ta générosité au micro.
Avec plaisir, merci à toi.
Chers auditeurs, si vous avez aimé ce podcast ou si vous souhaitez découvrir d'autres personnalités à Bordeaux notamment, n'hésitez pas à vous abonner, à suivre donc le podcast sur les réseaux sociaux. En attendant, je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le faire savoir en lui laissant une belle note ou en le partageant et le commentant sur les réseaux sociaux. Que ces conseils de communication puissent vous être utiles et à vos proches, je m'appelle David Jadar et vous pouvez me retrouver sur mon site internet lesorales.fr.